Et dans le contexte de l'époque, souvenez-vous des films des années 50, de La Fureur de vivre avec James Dean, ou des films avec Marlon Brando, de cette classe moyenne américaine, où le père travaille dans son costume gris, où la mère est à la maison avec son tablier de cuisine, elle prépare le gigot pour les enfants. Et d'une certaine manière, les gens vivent bien matériellement, mais il manque un peu d'idéal. Ils s'ennuient, ils font des bêtises, et les jeunes sont un peu dans cette optique qui est décrite par d'autres films, comme celui de Fellini, les gros veaux, des gens qui ne savent pas exactement pourquoi ils vivent, mais qui vivent bien. Et l'intérêt de ce manifeste de Port-Huron, c'est que c'est un manifeste d'avant-garde qui parle pour les 1% d'Américains qui ont cette espèce de conscience que cette société de consommation est une société du vide, sans valeur, sans vertu, alors qu'elle reproche à la quasi-totalité des Américains, eux, de vivre dans le confort. Et le manifeste de Port-Huron, qui sera donc ce manifeste de la contre-culture, dit à la fin, puisqu'on en reproduit des extraits dans le diplôme de février, il dit « Notre action est guidée par le sentiment que nous pourrions être la dernière génération à jouir de la vie, mais nous sommes une minorité. La grande majorité de notre peuple considère les équilibres éphémères de notre société et de notre monde comme une mécanique infaillible et éternelle. » Et ce qu'explique Alexander Coburn dans son article, c'est qu'avec Occupons Wall Street, il y a eu un retournement total. La minorité, ça n'est plus la minorité conscientisée qui découvre que le capitalisme est sans vertu, sans valeur, sans charme, mais c'est maintenant la minorité, ce sont ces 1% de population les plus riches qui accaparent l'essentiel des produits de la richesse économique, laissant les 99 autres pourcents vivre dans des conditions matérielles de plus en plus précaires. Et il est intéressant de voir ce renversement, comment la minorité qui était une minorité consciente très à gauche devient maintenant une minorité qui accapare l'essentiel des richesses et qui provoque un certain sentiment de colère contre elle. If the sun refuses to shine, I don't mind. I don't mind. If the mountains fill in the sea, let it be. It ain't me. Turned out to be nice. Oh, I don't mind. Oh, I don't mind. If all the hippies cut off all their hair. Oh, I don't care. Oh, I don't care.
Ah, alors là, le papier auquel je n'ai absolument rien compris, sauf le dernier paragraphe. Mais j'en suis sûr, un ignare dans ce domaine, qui n'est pas forcément le cas de tous les auditeurs de la basse. J'y suis, Aurélien Barreau. Vous avez exactement 7 minutes pour nous initier à la cosmologie, au Big Bang, au trou noir, bref, à l'origine et à l'évolution de l'univers à travers votre regard d'astrophysicien.
Mais 7 minutes, dans quel référentiel? Tout est là, c'est une question de relativité. Non, la cosmologie est une science un peu singulière, évidemment de par son objet d'étude. Parce que l'univers, ce n'est pas n'importe quoi, et il faut tenter de l'appréhender dans toute l'étendue de sa spatio-temporalité, sans limite aucune. Elle est aussi spécifique dans sa méthode, parce que l'expérience en question, la création du monde, n'a, semble-t-il, eu lieu qu'une fois. Il faut donc ajuster un peu notre procédure usuelle d'inférence des lois. Et pourtant, force est de constater qu'en dépit, ou peut-être même grâce d'ailleurs à ses spécificités, la cosmologie est devenue une science, et même une science de précision. Aujourd'hui, elle est fondée sur une grande théorie, la relativité générale, qui nous apprend que l'espace est une entité dynamique. Autrement dit, l'expansion que l'on observe. n'est pas une expansion des corps dans l'espace.
Mais est-ce que je peux...